Bonjour, bonjour, Yves au micro-micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera pas à la tradition en vous apprenant ou en vous rappelant que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent. Mais aujourd'hui, en l'occurrence, ce sont plutôt les grandes images puisque nous avons consacré 30 minutes au film catastrophe des années 70. Alors le film catastrophe à une époque où nous sommes maintenant assurés que l'espèce va disparaître sans doute avant la fin du présent siècle, ont connu un regain d'intérêt et puis surtout le numérique a permis de multiplier les visions les plus fantaisistes de catastrophes possibles et imaginables. Mais déjà dans les années 70, eh bien, le genre avait connu un certain succès et nous allons, sans plus de soucis chronologiques ou autres, égrener quelques titres dont la musique sera souvent signée d'un compositeur qui, lui, est toujours là, même s'il commence à être âgé, John Williams, mieux connu sans doute pour avoir signé les partitions de La Guerre des Étoiles et de quelques-unes de ses suites, et puis surtout pour être le collaborateur presque exclusif de Steven Spielberg. Mais John Williams, dans les années 60-70, avait signé donc la bande originale de certains de ses films, notamment du film qu'on va évoquer en premier, un film tourné en 1974 par John Guillermin, réalisateur d'origine anglaise, anglais donc, un film qui s'appelait La Tour Infernale, The Towering Inferno, et qui racontait, pour le faire simple, même si ça prenait plus de 2h30 pour le faire à l'écran, eh bien, une tour qui brûlait. Ça vous rappelle quelque chose? Ben oui, mais c'était quand même près de 40 ans auparavant. Le genre du film catastrophe avait comme avantage de permettre des effets spéciaux spectaculaires et puis surtout de réunir une pléiade, comme l'on dit, d'acteurs et d'actrices très connus dans des rôles souvent très courts, mais qui évidemment figuraient tous sur l'affiche et qui attiraient dans les salles les spectateurs. Et donc, au générique de La Tour Infernale, eh bien, il y avait rien moins que, excusez du peu, Steve McQueen, Paul Newman, William Holden, Faye Dunaway, Fred Astaire, aussi étonnant que ça paraisse, Robert Vaughn, moins connu sans doute, Richard Chamberlain et quelques autres. Bref, une solide troupe d'acteurs qui essayaient de lutter contre le feu qui finissait par gagner le bâtiment et les héroïques pompiers, et notamment Steve McQueen au premier rang d'entre eux. Ma foi, j'imagine qu'aujourd'hui les effets spéciaux paraissent bien désuets et le film peut-être un brin obsolète, mais à l'époque, il obtint 116 millions de dollars de recettes, ce qui, pour l'époque, était vraiment colossal. Ce fut le deuxième succès de l'année 74. Ne me demandez pas quel était le premier, je ne le sais pas. Et on va écouter un extrait de cette bande originale. Elle est signée de John Williams, donc, dans 24 notes secondes. Voilà un très large extrait pour une fois de la bande originale de La Tour Infernale, un film de John Williams tourné en 1974, plutôt une musique de John Williams pour un film de John Guillermine avec Steve McQueen et Paul Newman dans les rôles principaux, donc un film qui rencontra un très gros succès. Il fut même, paraît-il, nommé à l'Oscar du meilleur film, mais il ne l'obtient pas. Il obtint par contre des Oscars de consolation, on appelle ça meilleure photo, meilleur montage et meilleure chanson aussi. Mais We May Never Love Like This Again. Ah, c'est dommage que je ne vous ai pas fait écouter ça. Bon, c'est pas grave, une prochaine fois, on va passer à un autre film. Alors, toujours dans le même genre, film catastrophe, il y a le feu et il y a la terre. Après, on passera à l'eau, mais il y a la terre et en 1974, eh bien, Mark Robson tourna tout simplement Tremblement de terre. On ne peut pas faire mieux, donc je vous laisse imaginer. Alors évidemment, comme beaucoup de films catastrophes, c'est peu de minutes de catastrophe pour beaucoup de films, puisque un tremblement de terre, si long soit-il, ça dure rarement plus de 2-3 minutes, alors que le film faisait plus de 2h10. Donc évidemment, il y a l'attente du tremblement de terre, le tremblement de terre proprement dit, et surtout, le sauvetage des rescapés avec le père qui va sauver in extremis sa fille. Bref, des histoires relativement classiques pour un film qui ne l'était pas moins, avec là encore dans les rôles principaux, il y a peut-être une distribution moins prestigieuse que celle de La Tour Infernale, mais il y avait quand même Charlton Heston, Ava Gardner, George Kennedy, Richard Roundtree, ça ne vous dit plus rien, mais le gars a quand même fait Shaft, et Victoria Principal, qui était dans Dallas. Quand même, excusez du peu. Le tout avait été amené, alors le tout était aussi, le scénario du tout était, pardon, co-signé de Mario Puzo, l'auteur du Parrain. Enfin, il n'avait pas fait preuve d'autant d'originalité que pour le Parrain. Et puis, le film avait été vendu avec une innovation technique, en l'espèce le Sensor Round, qui permettait d'émettre pendant la projection des ondes à basse fréquence qu'on n'entend pas, mais qu'on ressent. Façon tremblement de terre, évidemment, vous l'aviez deviné. Ma foi, l'effet ne survécut pas au film. Je ne vois pas très bien, d'ailleurs, ce que ça pourrait faire, l'effet de Sensor Round, par exemple, dans un film de Woody Allen. Mais peut-être dans un film de super-héros, ça pourrait être intéressant. Et la musique, eh bien, vous l'aviez peut-être déjà deviné, elle était à nouveau signée de John Williams. Et on en étend à nouveau un large extrait dans 24 notes, seconde. We'll be right back. Un extrait de la bande originale de Tremblement de terre, Earthquake in English, un film de Mark Robson, une musique de John Williams, le tout en 1974 dans notre série Film Catastrophe. Et on va maintenant changer d'espèce, même carrément, puisqu'on va passer aux abeilles. Mais oui, même si ça paraît un peu grotesque, d'ailleurs, ça l'était. Eh bien, les abeilles furent aussi l'objet d'un film catastrophe, en fait même de 3 ou 4, on ne sait pas trop pourquoi. Et en 1918, à la fois le plus cher et celui qui rapporte le moins d'argent, ce fut The Swarm, c'est-à-dire en anglais l'essaim, en français l'inévitable catastrophe, histoire qu'on soit bien sûr, un film dont le scénario était signé par Stirling Siliphant, qui était le même scénariste que celui de La Tour Infernale, qui était réalisé par Irwin Allen, qui avait été aussi le producteur de La Tour Infernale, qui réunissait une distribution relativement prestigieuse aussi, puisqu'il y avait Michael Caine, Catherine Ross, Richard Widmark, Richard Chamberlain et Olivia de Havilland, que personne n'a oublié dans Autant en emporte le vent, je l'espère. Le film coûta aussi beaucoup d'argent, 21 millions de dollars, soit beaucoup plus encore que La Tour Infernale, et ce fut certainement l'un des bides les plus noirs de l'année 1978, et en tout cas l'un de ceux qui conduisirent à la fin du genre des films catastrophes, puisque dans ces mêmes années 78, on eut entre autres Le Jour de la Fin du Monde et Airport 80 Concorde, qui furent des bides tels que les producteurs passèrent à autre chose avant d'y revenir, comme je l'ai dit, au début du 21e siècle. Alors pour une fois, la musique, elle n'est pas signée de John Williams, elle est signée de ce cher Jerry Goldsmith, et on l'écoute abondamment. Un extrait donc de la bande originale de The Swarm dans les 4 notes secondes. L'inspirante musique de Jerry Goldsmith pour un film qu'il était beaucoup moins inspirant, L'inévitable catastrophe, sorti en 1978, signé Irwin Allen, qui marqua la fin du genre qui avait d'une certaine manière débuté toujours sous la direction ou presque d'Irwin Allen en 1973, puisque c'est en 1973, donc un an avant la Tour Infernale, que sortit sur les écrans L'aventure du Poséidon, The Poseidon Adventure, signé de Ronald Nim, encore un vieux routier du cinéma britannique, et qui racontait l'histoire d'un paquebot, le Poséidon, vous l'auriez deviné, qui tout simplement se retournait. Et du coup, eh bien, les survivants devaient remonter vers la surface dans un monde à l'envers, qui produisait d'ailleurs des effets tout à fait intéressants. C'est d'ailleurs pour ça que le film est tout à fait intéressant, l'idée de voir un paquebot à l'envers. Les escaliers sont à l'envers, tout est à l'envers, et donc vous remontez à l'envers. C'était visuellement très intéressant. D'ailleurs, le public ne s'y trompa pas, puisque le film connut un très très grand succès, alors qu'il n'avait pas une distribution plus prestigieuse que cela, puisqu'il y avait Jed Ackman et Ernest Borgnine dans les rôles principaux, des solides second rôles, mais rien de la vigueur de Steve McQueen ou de Paul Newman dans La Tour Infernale déjà citée. Mais ma foi, le film était très très habilement fait par Ronald Nim. Il bénéficiait lui aussi d'un scénario de Stirling Siliphant, et il bénéficiait aussi des musiques de John Williams, qu'on écoute dans 24 notes secondes. La partition vaguement, très vaguement, à la Claude Debussy de John Williams pour un extrait de la bande originale de L'Aventure du Poséidon, un film tourné en 1973, qui fut l'un des premiers grands succès du film catastrophe et qui généra d'ailleurs une suite, puisque le Poséidon, fort judicieusement, ne coulait pas à la fin du film et que du coup, on vit, je ne sais plus en quelle année, dans les années 78-79, le dernier secret du Poséidon. Mais il fut un échec commercial patent. Et puis, comme je vous l'ai dit avant d'écouter l'extrait, c'était moins drôle, puisque donc on rentrait dans le Poséidon par le haut, c'est-à-dire qu'on était à nouveau à l'endroit. Si vous n'avez pas suivi, vous pouvez écouter l'émission en podcast si vous le souhaitez. Alors, on va conclure avec un film qui n'est pas vraiment considéré comme un film catastrophe, mais qui pourtant relève plus ou moins du genre, qui bénéficie lui aussi d'une musique signée John Williams, mais dans le cadre de la collaboration sus-évoquée avec Steven Spielberg, puisqu'on va se faire plaisir, on va écouter un extrait de la bande originale des Dents de la Mer, Jaws, Mâchoire. C'est quand même quelque chose, Mâchoire, un film Bon, je voudrais une place pour Mâchoire, s'il vous plaît. Un film sorti en 1975 et qui était un peu, si vous me passez l'expression, le queue de la comète film catastrophe, un genre qui était en voie de déclin, comme je l'ai évoqué, par un certain nombre d'insuccès commerciaux. Ce ne fut pas le cas. Oh, loin de là, Des Dents de la Mer, qui rencontra un immense succès pour un film qui avait connu beaucoup de soucis de production, notamment pour figurer le requin à l'époque. Là encore, il n'y avait pas d'effet numérique, donc on avait fait des requins en plastique, de toute taille, etc., qui coulaient plus ou moins, mais Steven Spielberg s'obstina. Il faut dire qu'il avait un très bon scénario signé de Peter Benchley, auteur du roman d'origine, et de Carl Gottlieb, qu'il avait de très bons interprètes, Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss et Lorraine Gary, et puis qu'il avait un très grand compositeur pour une musique que personne n'a oubliée et que je vous propose dans 24 notes secondes. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, see you, bye.